Deuxième partie. Hiver. Chapitre 8. Les enrôleurs. Il existait peu de mouillage dans le passage extérieur qui mérite le qualificatif de sûr, mais Recoing en faisait partie. L'abri était difficile d'accès par marée descendante, mais une fois qu'on y était parvenu, c'était un des rares emplacements de la région où les navires, comme les matelots, pouvaient se reposer sans crainte une nuit ou deux. La plupart des ports de l'extérieur étaient régulièrement balayés par les tempêtes hivernales qui soufflaient de la mer agitée et martelaient les côtes sans merci, parfois des semaines durant. Le capitaine avisé restait au large de la terre quand il faisait route au sud, car plus son navire se rapprochait des hauts fonds avancés, plus il avait de chances de se faire drosser et mettre en pièces sur les écueils. En conséquence, si les provisions d'eau n'avaient pas croupi au point que même les marins n'en voulaient plus pour boire, le moissonneur n'aurait jamais pris le risque de se rendre à Recoing. Mais il y avait fait halte et l'équipage jouissait d'une soirée de liberté à terre avec des femmes, de la nourriture qui ne nageait pas dans la saumure et de l'eau que ne recouvrait pas une écume verdâtre. Les cales du moissonneur étaient pleines de barils remplis de viande salée, de rouleaux de peau et de cuves d'huile et de graisse. C'était une belle cargaison, durement gagnée, que l'équipage pouvait s'enorgueillir d'avoir amassée si rapidement, car le navire n'avait quitté son port d'attache de Chandelle que 15 mois plus tôt. Le voyage de retour se faisait beaucoup plus vite que celui d'aller. Les marins professionnels savaient avoir bien mérité les primes qui les attendaient au bout de la route, et chasseurs et dépeceurs avaient déjà fait leur compte pour calculer quelle serait leur part respective. Quant aux enrôlés de force, il leur suffisait de survivre jusqu'à la fin du trajet pour débarquer libre. Attel, le mousse, s'était distingué en se voyant octroyer une prime de dépeçage en plus de son salaire normal. Du coup, il avait acquis une certaine popularité auprès de ceux qui s'adonnaient au dé. Mais l'enfant farouche avait décliné toutes les propositions d'échanger sa prime à venir contre un certificat nominatif. À la surprise générale, il avait aussi refusé d'emménager chez les chasseurs et les dépeceurs et de devenir l'un d'eux, préférant rester simple membre d'équipage. Quand on le poussait dans ses retranchements, le jeune garçon se contentait de sourire en disant « J'aime mieux être matelot. Un matelot, ça peut naviguer sur n'importe quel genre de navire, tandis que les chasseurs et les dépeceurs, ils sont obligés de monter au nord au moins une fois l'an. Moi, c'est la première fois que j'y vais, et ça ne m'a pas beaucoup plu. » C'était de toute façon la meilleure réponse qu'Althea pouvait donner à l'offre qu'on lui avait faite. Les chasseurs et les dépeceurs étaient donc restés entre eux à s'admirer de leur dureté au travail, tandis que les marins avaient approuvé le choix avisé du mousse. Brachen, lui, se demandait si Althea avait vraiment tenu compte de ces éléments ou bien si elle avait simplement eu la main heureuse en prenant sa décision. Il l'observait à l'autre bout de la taverne. Elle était assise à l'extrémité d'un banc et tenait contre elle une chope de bière sombre, la même depuis son arrivée dans l'établissement. Elle répondait par des hochements de tête au bavardage de sa tablée, éclatait de rire quand il le fallait, et prenait l'air timide de façon convaincante quand les putains l'approchaient. Elle était enfin devenue un membre à part entière de l'équipage, se disait Brachen. Ce fameux après-midi sur la plage où le massacre avait eu lieu l'avait changé. Elle s'était prouvée à elle-même qu'elle pouvait faire du bon travail, quand la tâche n'exigeait ni de la force brute, ni une trop grande taille. Tant qu'ils étaient restés mouillés là-bas, son premier devoir avait été le dépeçage, et les jours passant, elle n'avait fait que gagner en rapidité. Cette confiance en elle retrouvée, elle l'avait conservée à bord, où elle s'était chargée des corvées pour lesquelles l'agilité et la vivacité comptaient davantage que la puissance. Elle devait encore forcer quand elle travaillait avec les hommes, mais cela ne les étonnait pas chez un enfant. Le fait qu'il eût excellé dans un domaine leur laissait espérer qu'il finirait par se débrouiller dans les autres. Brachen avala ses deux dernières gorgées de bière. et leva sa chope pour qu'on la lui remplisse. Tout en observant avec plaisir, Calthéa avait assez de bon sens pour ne pas s'enivrer avec ses compagnons de bord. Il hocha la tête. Il l'avait sous-estimée. Elle survivrait au voyage tant qu'elle s'en tiendrait à cette attitude. Il ne lui restait guère d'années pendant lesquelles se faire passer pour un garçon, mais pour la présente campagne, elle y arriverait. Une servante vint remplir sa chope. Il la remercia d'un signe de tête et fit glisser une pièce dans sa direction. La jeune fille lui fit une rapide révérence, puis se précipita vers la table voisine. « Jolie brin de fille !» se dit-il, en s'étonnant que son père l'autorise à travailler dans la salle commune. À voir son allure, elle ne faisait manifestement pas partie des prostituées, mais tous les marins s'en apercevraient-ils. Il la suivit des yeux à travers la pièce et constata que la plupart des matelots la traitaient avec respect. Un homme tenta d'agripper sa manche après qu'elle l'eût servie, mais elle lui échappa d'un mouvement leste. Arrivée près d'Athèle, toutefois, elle s'arrêta et interrogea le mousse, un sourire aux lèvres. Althea regarda ostensiblement au fond de sa chope, puis laissa la jeune fille la remplir. Le sourire que la servante avait adressé au soi-disant garçon était beaucoup plus avenant que ceux qu'elle réservait aux autres clients. Brachen se mit à rire sous cap. Althea faisait un joli adolescent, et la timidité qu'elle affichait la rendait sans doute plus attirante que bien des hommes faits. Brachen se demanda si les signes d'embarras qu'elle montrait étaient entièrement feints. Il posa sa chope sur le comptoir devant lui, puis ouvrit son manteau. Il avait trop chaud. Il sourit, envahi de bien-être. Il était au sec dans la salle tiède. Le pont restait immobile sous ses pieds, et l'inquiétude, cette compagne constante du marin, pouvait s'apaiser un moment. Le temps qu'ils atteignent Chandelle avec leur cargaison, il aurait gagné assez d'argent pour souffler un peu. Naturellement, il ne ferait pas la bêtise de le claquer d'un coup. Non, cette fois au moins, il suivrait le conseil du capitaine Vestrit et en mettrait une partie de côté. Il avait même le choix désormais. Il pouvait sans doute rester à bord du moissonneur aussi longtemps qu'il le voudrait, car le commandant désirait le garder dans son équipage. Ou bien il pouvait retirer son certificat de bord à Chandelle et séjourner quelque temps dans la ville. Il finirait peut-être par trouver un autre navire un peu supérieur au moissonneur, un peu plus propre et un peu plus rapide, comme un marchand qui naviguerait de port en port sous bonne voilure. Oui. À l'intérieur de sa lèvre inférieure, il ressentait une brûlure, dont il avait perdu l'habitude, et il déplaça promptement la chique de Saint-Dine. Il fallait qu'elle fût aussi concentrée que l'avait promis le vendeur pour attaquer si vite la muqueuse. Il prit une gorgée de bière pour apaiser la sensation. Il y avait des années qu'il ne s'était pas laissé aller à prendre de la Saint-Dine. Le capitaine Vestrit se comportait en véritable tyran sur ce point. S'il soupçonnait le moins du monde un homme d'en faire usage à terre ou à bord, il lui inspectait l'intérieur de la bouche et, au plus petit signe de brûlure, il débarquait le fautif au port suivant, sans un sou en poche. Brachen avait gagné la petite chic un peu plus tôt à une table de jeu, autre distraction qu'il ne s'était pas autorisé depuis un certain temps. Mais crénom, il fallait savoir se détendre et l'instant présent était aussi propice qu'un autre. Il ne s'était pas montré téméraire. Il n'avait rien parié qu'il ne pût se permettre de perdre. Il avait commencé par miser des dents d'ours de mer qu'il avait sculptées en forme de poisson et d'autres animaux pendant son temps libre. Et presque dès le début du jeu, il avait gagné régulièrement. Certes, il avait bien failli perdre son couteau de pont, ce qui aurait été un rude coup, mais la chance avait tourné et il avait raflé non seulement la chique de Saint-Dine, mais encore assez d'argent pour se payer de la bière toute la soirée. Il en éprouvait presque des scrupules. Les gars dont il avait pris l'argent et la Saint-Dine étaient le second et le cambusier de la Joyeuse, un autre navire abattoir ancré dans le port. Seulement, les cales de la Joyeuse étaient vides de toute cargaison et ses barils encore pleins de sel. Son équipage était en route pour les territoires de chasse. Et aussi tard dans la saison, il allait avoir du mal à la remplir. Brash n'aurait pas été surpris si elle restait sur place jusqu'à la fin de la saison à courir d'ours de mer en petite baleine. Ça, c'était du travail dangereux et moche. Et il était bien content de ne pas en être. Ses gains de ce soir étaient un signe, il en était sûr. Sa chance revenait. Et son existence allait prendre un cours plus droit. Ah, bien sûr, la vivacia lui manquait toujours, et le vieux capitaine Vestrit aussi, que ça le tienne au creux de ses bras. Mais il allait se bâtir une nouvelle vie. Il termina sa chope de bière, puis se frotta les yeux. Il devait être plus fatigué qu'il ne le croyait pour se sentir soudain aussi ensommeillé. D'ordinaire, la syndine lui donnait plutôt un coup de fouet. C'était même la signature de cette drogue. On se sentait envahi d'un doux bien-être accompagné d'une forte envie de faire la fête. Mais cette fois, il avait l'impression que son rêve le plus cher était de s'écrouler dans un lit tiède, moelleux et sec, qui ne sentait ni la sueur, ni le moisi, ni l'huile, ni l'étoupe. Et sans punaise. Il était si absorbé par l'élaboration de cette image paradisiaque qu'il sursauta en découvrant la servante devant lui. Avec un sourire espiègle, elle désigna sa chope du doigt. Elle avait raison, elle était à nouveau vide. Mais il la couvrit de sa main et secoua la tête d'un air de regret. « Désolé, je suis à court d'argent. Et tant mieux finalement. Je veux avoir l'esprit clair quand nous quitterons le port demain. » « Demain ? Avec un coup de tabac pareil ? » fit-elle d'un ton compatissant. Il hocha la tête, partageant son avis. « Tempête ou non, il faut l'affronter. Le temps et la marée n'attendent personne, du moins c'est ce qu'on dit. Et plus vite nous nous en irons, plus vite nous serons à la maison. »«
À la maison ? » répéta-t-elle avec un nouveau sourire.
« Alors c'est moi qui régale. Un rapide voyage qui vous ramène tous à la maison, votre équipage et vous. »
Lentement, Brashen retira sa main et laissa la servante remplir sa chope.
Ah oui, sa chance avait vraiment tourné.
« Vous êtes du même navire que ces hommes-là, n'est-ce pas ? » demanda la jeune fille.
« Le moissonneur ? » ?»«
C'est ça, oui, » répondit-il.
Il déplaça encore une fois la chique dans sa bouche.
« Alors vous, vous êtes le second du moissonneur ? » ?»«
Pas exactement, je ne suis que deuxième lieutenant. »
Ah, donc Brashen, c'est vous ?
Il acquiesça sans pouvoir empêcher un sourire ravi d'apparaître sur ses lèvres. Qu'une femme connût son nom avant même qu'il se fût présenté, c'était plutôt flatteur.
Il paraît que le moissonneur a fait le plein de ses cales et qu'il rentre au port. L'équipage doit être bon, non ?
Elle haussait un seul sourcil quand elle posait une question.
Assez, oui.
La conversation commençait à plaire à Brashen. Mais la servante trahit la véritable raison de sa générosité lorsqu'elle demanda
« C'est votre mousse là-bas, à l'autre bout de la salle ? Il ne boit pas beaucoup. »
« En effet, et il ne parle pas beaucoup non plus. »
« J'avais remarqué, » fit-elle avec regret.
Elle se tut un instant, puis s'enquit tout à coup.
« C'est vrai ce qu'on raconte sur lui ? Qu'il est capable de dépecer les ours de mer presque aussi vite qu'on les abat ? »
Elle trouvait donc Althea, ou plutôt Athèle, à son goût.
Brashen sourit à part lui.
« Non, c'est complètement faux, » répondit-il d'un ton solennel. « Athèle est beaucoup plus rapide que les chasseurs. Ça nous a d'ailleurs posé un gros problème, parce qu'il commençait à dépecer les bêtes avant qu'on les ait tuées. Les chasseurs ont passé leur temps à courir après des ours tout nus qu'il avait déjà écorchés. »
Il prit une gorgée de bière. L'espace d'un instant, la servante le dévisagea, les yeux écarquillés, puis elle le gourmanda.
« Vous vous fichez de moi ! » fit-elle en éclatant de rire, et elle lui donna une bourrade à enjouer.
Détendu comme il l'était, Brashen dut se rattraper au comptoir pour éviter de tomber.
« Oh, pardon !»
s'exclama la jeune fille en l'agrippant par la manche pour l'aider à se redresser.
« Ce n'est pas grave. Je suis plus fatigué que je ne le croyais, c'est tout.
« Vraiment ? »
demanda-t-elle doucement. Elle attendit que le regard de Brashen croise le sien. Elle avait les yeux bleus, plus profonds que la mer.
« Il y a une chambre à l'arrière avec un lit. C'est la mienne. Vous pouvez vous y reposer un moment si vous avez envie de vous allonger. » Avant qu'il pût avoir une certitude sur ce qu'elle sous-entendait, elle baissa les yeux et s'éloigna.
Il reprit sa chope et, à l'instant où il buvait une gorgée, la servante ajouta par-dessus son épaule
« Prévenez-moi si vous avez envie !»
Elle s'immobilisa un moment, la tête tournée vers lui, un sourcil levé d'un air interrogateur, ou bien aguichant.
Quand la chance tourne, c'est comme quand la marée devient favorable. Il faut en profiter tant que ça dure.
Brachen termina sa chope et se leva.
« Ça me plairait, » dit-il à mi-voix, et c'était vrai. Que la jeune fille fût comprise dans la proposition ou non, l'idée de coucher dans un vrai lit était plus que tentante.
Qu'avait-il à y perdre?
Il déplaça de nouveau la sindine dans sa bouche. Tout allait vraiment très bien.
« Encore une tournée !» déclara Reller. « Et ensuite on ferait bien de retourner au navire. »«
Ne nous attends pas !»
rétorqua un matelot avec un petit rire.
« Vas-y, Reller, on te rejoindra après !»
Et sa tête commença à tomber sur ses bras croisés. Reller tendit la main en travers de la table et secoua l'homme.
« Pas de ça, Yord! Ne t'endors pas ici! Une fois qu'on sera revenu au navire, tu pourras t'écrouler sur le pont et ronfler comme un porc autant que tu voudras, mais pas ici !»
Le ton qu'il avait employé réveilla l'attention de Yord. Il leva des yeux troubles.
« Pourquoi ?»
Reller se pencha vers lui.
« Un gars de la Sterne m'a prévenu. Tu sais, la joyeuse qui est amarrée près de nous. Eh bien, l'équipage a attrapé la nausée rouge et 7 hommes y sont restés. Il y a 3 jours que le commandant se balade en ville en essayant de recruter de nouveaux hommes, mais il n'y arrive pas. Il paraît qu'il est prêt à tout. Il faut qu'ils aillent sur les territoires de chasse et chaque jour qu'ils passent ici, c'est 1 semaine en plus qu'ils devront rester là-bas. Digit, de la Sterne, m'a dit que notre équipage ferait bien de ne pas se séparer et de dormir à bord ce soir. Un de leurs chasseurs a disparu depuis 2 jours, et tu te doutes de ce qui a pu lui arriver. Alors, si on rentre au navire, on y rentre tous ensemble, à moins que t'aies envie de te réveiller sur la Joyeuse, en train de cingler vers le nord.
« Des enrôleurs de force ?»
fit Yord avec une sorte d'horreur dans la voix.
« Qui travaille ici, à Recoin ?»«
Tu connais un meilleur endroit ?»
rétorqua Reller d'un ton grave.
« Si un homme ne regagne pas son navire à temps, personne n'a envie de rester amarré ici pour le rechercher. C'est pas difficile de se planquer dans une ruelle et de choisir quelque mâturin d'un navire qui rentre à son port d'attache. Quand les pauvres couillons se réveillent, ils sont revenus sur les territoires de chasse. Crois-moi, ici, c'est pas une ville où il fait bon se promener tout seul quand on est marin. »
Yord se leva brusquement.
« J'en ai ras le bonnet de ces eaux du Nord. Pas question que je cours le risque d'y retourner. Allez les gars, on rembarque. »
Reller balaya la salle du regard.
« Eh, où est passé Brache? Il n'était pas assis là-bas? »
« Il est parti avec une fille, je crois. »
C'était Althea qui avait répondu. Elle s'aperçut du ton désapprobateur qu'elle avait pris et vit ses compagnons se tourner vers elle, l'air étonné.
« Cette fille, je pensais que c'était moi qu'elle regardait. »
ajouta-t-elle d'une voix lugubre. Elle saisit sa chope, en but une gorgée, puis la reposa.
« Allons-y. La bière d'ici, on dirait de la pisse, de toute façon. »
Ah, parce que tu sais quel goût ça a, la pisse ? »
fit Yord d'un ton moqueur.
« Pas la peine. Ce que je sais, c'est que cette lavasse a la même odeur que ta couchette, Yord. »
« Allons bon, on a un renifleur de couchette à bord, les gars !»
répondit Yord en éclatant d'un rire d'ivrogne. Les autres l'imitèrent et Althea secoua la tête. À terre ou sur mer, l'humour et les traits d'esprit ne changeaient pas. Pourtant, elle était pressée de retourner au navire. Au plus vite, ils quitteraient ce trou perdu, plus vite, ils atteindraient Chandelle.
Elle s'écarta de la table et Yord se pencha en avant pour examiner le contenu de sa chope.
« Tu la termines pas ? » demanda-t-il.
« Fais comme chez toi.
répondit Althea en se détournant pour sortir de la taverne à la suite des autres. Du coin de l'œil, elle vit Yord vider la chope d'une lampée puis faire la grimace.
« Pouah ! T'as dû avoir le fond du tonneau !»
Il s'essuya la bouche de sa manche et emboîta le pas au groupe. À l'extérieur, la tempête faisait rage. Distraite par la fatigue, Althea se demanda s'il n'en était pas toujours ainsi dans ce port loin de tout. Elle plissa les yeux pour affronter le vent qui chassait la pluie et faisait flotter ses vêtements et ses cheveux. Et en deux pas, elle oublia qu'elle avait été au chaud et au sec. Elle reprenait son existence de mousse. Elle n'entendit pas le patron de la taverne l'appeler. C'est seulement quand Rayleur se retourna et qu'elle suivit son regard qu'elle vit l'homme à la porte de son établissement.
« C'est toi, Tel !»
cria-t-il dans le rugissement de la tempête. Rayleur secoua la tête et désigna Althea.
« Brashen te demande. Il a bu un coup de trop. Viens l'aider à sortir d'ici. »«
Merveilleux !» fit Althea d'un ton caustique, tout en se demandant pourquoi Brashen l'avait choisi.
Rayleur lui fit signe de retourner à la taverne.
« Retrouve-nous au navire »
cria-t-il pour se faire entendre dans le vent, et Althea hocha la tête. Elle repartit d'un pas fatigué, peu réjouie à l'idée d'affronter la tempête avec Brashen appuyé sur elle de tout son poids. Mais enfin, c'était le genre de corvée qui incombait à un mousse. S'il vomissait en arrivant sur le pont, ce serait aussi à elle de nettoyer derrière lui. En grommelant, elle monta les marches et entra dans l'établissement. Le patron lui indiqua une porte au fond de la taverne.
« Il est là !»
dit-il d'un air mécontent.
« Il s'est presque évanoui sur une des filles !»«
Je vais l'emmener !»
promit Althea. Et dégoulinante de pluie, elle se faufila entre les clients attablés jusqu'à la porte qu'elle ouvrit. Elle se trouva devant une chambre mal éclairée où elle distingua un lit, ainsi que la servante, le corsage défait. À l'entrée d'Althea, la fille, penchée sur Brashen, leva les yeux et eut un sourire d'impuissance.
« Je ne sais pas quoi faire, » dit-elle sans cesser de sourire. « Vous voulez bien m'aider ?»
Si Althea avait été un vrai garçon, elle aurait peut-être été distraite par la poitrine dénudée de la servante et serait entrée sans réfléchir davantage. Elle n'aurait sans doute pas contemplé Brashen comme elle le fit, en songeant qu'il n'avait pas l'air évanoui, mais évoquait plutôt un homme qui s'était fait assommer et qu'on a étendu sur un lit. Durant cet instant de réflexion, elle perçut du coin de l'œil un mouvement sur sa gauche. Elle recula et le coup tomba, non sur le sommet de son crâne, mais sur le côté. Puis le gourdin poursuivit sa course et s'abattit sur son épaule, lui engourdissant le bras jusqu'au bout des doigts. Elle poussa un cri. Et sous le choc, elle rentra dans la chambre en trébuchant, tandis que l'homme qui l'avait frappé claquait la porte derrière elle. La servante faisait partie du complot. Althea le comprit aussitôt, et, aiguillonnée par la souffrance, elle lui envoya son poing gauche en plein visage, aussi fort qu'elle le put. L'impact ne fut pas très violent, mais la fille parut en ressentir autant de douleur que de surprise. Elle poussa un cri, et les mains sur la figure, elle recula en chancelant alors qu'Althea se retournait rapidement vers l'homme près de l'entrée.
« Espèce de petit salaud »
fit-il d'une voix sifflante, et il lui décocha un coup de poing. Althea se baissa pour l'éviter, puis bondit vers la porte qu'elle réussit à entr'ouvrir.
« Des enrôleurs »
hurla-t-elle à plein poumon, puis un éclair blanc la jeta par terre. Elle entendit d'abord des voix.
Un de la sterne, celui qu'il cherche partout. Il était ligoté dans la cave à bière. Un autre du Carlyle, et ces deux-ci, du moissonneur. À part ça, on dirait qu'il y en a quelques autres derrière la maison, recouverts de terre. On a dû les frapper trop fort. Sale façon de crever pour un marin.
Une seconde voix répondit d'un ton fataliste.
Ouais, c'est vrai, mais on n'arrête pas d'en trouver.
Althea ouvrit les yeux et vit des tables et des bancs renversés. Sa joue baignait dans une flaque de liquide. Elle souhaita qu'il ne s'agît que de bière. Des jambes bottées passaient devant elle, assez près pour l'écraser. Elle leva la tête et vit des hommes vêtus d'épaisses culottes de cuir pour se protéger du froid. Prenant appui sur le sol, elle se souleva et, à sa seconde tentative, elle réussit à s'asseoir. Le mouvement fit danser la pièce devant ses yeux.
« Hé ! Le gamin revient à lui !» fit une voix. « Pourquoi t'as frappé la fille à Pâques, petit poivreau ?»«
C'était l'appât. Elle fait partie de la combine !» répondit Althea en articulant soigneusement. « C'était pourtant évident, non ?»«
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non !» dit l'homme d'un ton avisé. « Tu peux te mettre debout ?»«
Je crois. » S'agrippant à une chaise retournée, elle se leva tant bien que mal. La tête lui tournait et elle avait envie de vomir. Elle se palpa prudemment l'arrière du crâne, puis examina ses doigts rouges de sang. « Je saigne ?» dit-elle. Mais cela ne parut guère intéresser ceux qui l'entouraient.
« Ton copain est encore dans la chambre. »
lui annonça l'homme aux bottes.
« Tu ferais bien de l'embarquer et de le ramener à ton navire. Pag est dans une rogne noire que tu es tapé sur sa fille. On t'a jamais appris à te tenir avec les dames ?»«
Pag trempe dans la combine, lui aussi, si ça se passe dans sa chambre et dans sa cave, » fit Althea d'un ton morne.
« Pag, ça fait 10 ans que je le vois tenir cette taverne. À ta place, j'éviterais de raconter n'importe quoi. » « C'est ta faute si toute la salle est sans dessus-dessous. On ne veut plus de toi ici. »
Althea ferma étroitement les paupières, puis les rouvrit. Le plancher s'était apparemment calmé. « Je vois, » dit-elle à l'homme. « Je vais aller chercher Brachen. » Manifestement, les enrôleurs tenaient la ville et la dirigeaient à leur guise. Elle avait eu de la chance que la taverne eût été pleine de matelots qui ne portaient pas cette engeance dans leur cœur. Les deux hommes ne paraissaient guère se soucier de la façon dont Pag gagnait son argent. Elle s'interrogea. Si un groupe de marins en colère ne se tenait pas en cet instant même près de la cheminée, Brachen et elle auraient-ils la possibilité de s'en aller librement?
Mieux valait filer tant qu'ils en avaient le loisir.
Elle se dirigea d'un pas chancelant vers la porte du fond et jeta un coup d'œil dans la chambre. Brachen était assis sur le lit, les épaules voûtées, le visage dans les mains.
« Brach !»
fit-elle d'une voix croissante.
« Althea ?»
répondit-il, l'esprit visiblement embrumé. Il se tourna dans sa direction.
« Je m'appelle Athel !»
rétorqua-t-elle d'un ton revêche.
« Je commence à en avoir marre qu'on se moque de mon prénom. »
Elle s'approcha de lui et le tira en vain par le bras.
« Allez, venez, il faut retourner au navire !»«
Je ne me sens pas bien. Quelque chose dans ma bière, » gémit-il. Il se toucha l'arrière du crâne.
« Et je me suis fait assommer en plus, je crois. »« Moi aussi. »
Althea se pencha vers lui et baissa la voix.
« Mais il faut nous en aller d'ici tant que c'est encore possible. » Les hommes dans la salle d'à côté n'ont pas l'air trop regardants sur la façon dont Pag gagne son argent. Plus vite nous nous en irons, mieux ça vaudra.
Malgré son état d'hébétude, il comprit rapidement ce qu'elle voulait dire.
« Laisse-moi m'appuyer sur ton épaule, »
ordonna-t-il à voix haute, et il se redressa en titubant. Althea lui prit le bras et se le passa autour du cou, mais Brachen était trop grand, ou bien elle trop petite, et elle avait du mal à l'aider et à se déplacer. Elle avait constamment l'impression qu'il s'efforçait de la faire tomber sous son poids. Néanmoins, tout chancelant, ils parvinrent à sortir de la chambre et à traverser la salle commune jusqu'à la porte. Un des marins près de la cheminée leur adressa un hochement de tête d'un air grave, et les deux autochtones les regardèrent s'en aller sans réagir. Brachen manqua une marche alors qu'ils descendaient l'escalier, et ils faillirent s'écrouler tous deux dans la fange glacée de la rue.
L'officier leva les yeux vers le ciel d'où tombait la pluie chassée par le vent. Le temps se refroidit.
Oui, on aura de la neige fondue cette nuit,
prédit Althea d'un ton lugubre.
Zut, une soirée qui avait si bien commencé.
La jeune fille s'engagea dans la rue, Brachen lourdement appuyé sur son épaule. À l'angle d'une boutique au volet clos, elle s'arrêta pour se repérer. La ville était plongée dans l'obscurité et la pluie qui ruisselait dans ses yeux n'arrangeait rien.
« Une minute, Althea. Il faut que je pisse. »«
Athel !» lui rappela-t-elle d'un ton las. Par un reste de pudeur, Brashen s'éloigna en titubant d'un ou deux pas tout en déboutonnant son pantalon.
« Excusez-moi, »
fit-il d'un ton bourru un moment plus tard.
« De rien, »
répondit-elle tolérante. « Vous êtes encore ivre. »«
Je ne suis pas ivre, »
rétorqua-t-il. Il posa la main sur son épaule.
« On avait drogué ma bière, je pense. Non, j'en suis certain. Sans la sindine, j'aurais sans doute décelé le goût. »«
Vous prenez de la sindine ?» demanda Althea stupéfaite. « Vous ?»
« De temps en temps, » répondit Brashen sur la défensive. « Pas souvent, et il y avait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. »
« Mon père affirmait que la sindine tuait davantage de marins que le mauvais temps, » dit Althea d'un ton aigre. La migraine lui martelait la tête.
« Sans doute, »
acquiesça Brashen. Comme ils arrivaient sur les quais, il reprit.
« Vous devriez quand même essayer un jour. » Rien ne vaut la sindine pour oublier un moment ses problèmes.
C'est ça.
Il paraissait tituber davantage. Althea passa son bras autour de sa taille.
Ce n'est plus très loin.
Je sais.
Et que s'est-il passé tout à l'heure dans la taverne?
Elle aurait voulu se mettre en colère contre lui, mais elle n'en avait plus l'énergie. Et puis, c'était presque comique.
Vous avez failli vous faire enrôler de force. Je vous raconterai tout demain.
Ah !
Un long silence suivit. Le vent se calma quelques instants.
Dites donc, je pensais à vous un peu plus tôt et à votre avenir.
Vous devriez monter au nord.
Elle secoua la tête dans l'obscurité. Les navires abattoirs, c'est fini pour moi, si je peux l'éviter.
Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais de vous rendre beaucoup plus loin au nord-ouest. Au-delà des États calcèdes, dans les duchés. Là-bas, les navires sont plus petits qu'ici, et on se fiche que vous soyez un homme ou une femme, du moment que vous mettez du cœur à l'ouvrage. C'est en tout cas ce que j'ai entendu raconter. Là-bas, il y a des femmes capitaines, et parfois même les équipages ne sont composés que de femmes.
« Oui, mais ce sont des barbares, » répondit Althea. « Ces gens sont plus proches des Outriliens que de nous. » Et d'après ce que je sais, ils passent le plus clair de leur temps à essayer de s'exterminer mutuellement. La plupart d'entre eux ne savent même pas lire, Brashen. Et, ça nous garde, ils se marient devant des pierres dressées.
« Des pierres témoins, » corrigea-t-il.
« Mon père commerçait là-bas avant que la guerre n'éclate chez eux, » poursuivit Althea sans prêter attention à sa remarque.
Ils étaient à présent sur les quais. Et le vent forcit brusquement, avec une violence qui faillit jeter la jeune fille à terre.
« Il disait, » grogna-t-elle en aidant Brashen à rester debout, « qu'ils étaient encore plus barbares que les Chalcédiens, et que la moitié de leur construction ne possédait même pas de vitres. »«
Ils n'avaient vu que la côte, » rétorqua Brashen, entêté.
« Il paraît qu'à l'intérieur, des terres certaines de leur ville sont magnifiques. »«
Oui, mais moi je vivrais sur la côte, » répondit-elle d'un ton maussade.
« Tenez, voici le moissonneur. Attention où vous mettez les pieds. »
Le navire amarré au quai cognait constamment contre les chameaux de chanvre au rythme du vent et des vagues, et Althea s'attendait à des difficultés pour faire franchir la passerelle à Brashen. Mais il la passa d'un pas étonnamment sûr. Une fois sur le pont, il s'écarta de la jeune fille.
« Allons, va dormir un peu, petit. On lève l'ancre tôt demain matin. »
« Oui, lieutenant, » répondit-elle soulagée. Elle se sentait toujours nauséeuse et la tête lui tournait encore. À présent qu'elle était revenue à bord, tout près de son lit, sa fatigue s'accrut brusquement. Elle se dirigea d'un pas lourd vers le panneau de cale. Sous le pont, elle trouva certains membres de l'équipage encore éveillés, assis en rond autour d'une lanterne sourde. Rayleur l'accueillit en lui demandant «
Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » ?»«
Des enrôleurs, » répondit-elle succinctement. « Ils ont essayé de nous embarquer, Brashen et moi, mais on a réussi à leur filer entre les doigts. On a aussi retrouvé le chasseur de la Sterne,
plus quelques autres, je crois.
« Par les couilles de ça !» s'exclama l'homme. « Le capitaine de la Joyeuse était dans le coup ?»«
J'en sais rien, » répondit la jeune fille avec lassitude. « Mais pour Pag, c'est sûr, et pour sa fille aussi. La bière avait été droguée. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette taverne. »
« Tonnerre! Pas étonnant que Yord ronfle comme un sonneur. Il a bu la dose qui t'était destinée. Bon, moi je vais à bord de la Sterne pour entendre ce que le chasseur raconte. »
« Moi aussi. »
Et comme par magie, même les hommes aux trois quarts endormis se réveillèrent et quittèrent la cale pour écouter l'histoire. Althea leur souhaita qu'elle l'eût enjolivée entre-temps. Pour sa part, elle n'avait qu'une envie. Retrouver son hamac en attendant que le navire reprenne la mer. Il dut s'y reprendre à quatre fois pour allumer la lanterne. Quand la mèche brûla enfin, il rabaissa délicatement le verre et s'assit sur sa couchette. Il se releva peu après et s'approcha du petit miroir fixé au mur. Il tira sur sa lèvre inférieure pour en examiner l'intérieur.
Zut!
Il aurait de la chance si les brûlures ne s'ulcéraient pas. Cet aspect de la Saint-Digne lui était sorti de l'esprit. Il se rassit lourdement sur sa couchette et entreprit d'ôter son manteau. C'est alors qu'il se rendit compte que la manche gauche était trempée non seulement d'eau de pluie mais aussi de sang. Il la regarda fixement un moment, puis prudemment se tâta l'arrière du crâne. Non, il y avait une bosse mais pas de plaie. Il tapota sa manche du bout des doigts. Il les retira humides et rouges de sang encore frais.
Althea ?
Se demanda-t-il hébété. Le produit qu'on avait mélangé à sa bière lui embrumait encore les idées.
Oui, Althea. Ne lui avait-elle pas dit qu'elle avait reçu un coup à la tête ?
Mais enfin, pourquoi ne pas lui avoir signalé qu'elle saignait ?
Avec le soupir d'un homme victime d'une profonde injustice, il remit son manteau et ressortit dans la tempête. Le poste de l'équipage était aussi obscur et puant qu'il se le rappelait. Il réveilla deux hommes, avant d'en trouver un à l'esprit assez clair pour lui indiquer le hamac d'Althea, dans un coin où un rat n'aurait pas eu la place de se retourner. Il s'y rendit à la lueur d'un tronçon de bougie, puis secoua la jeune fille, qui, jurant et protestant, finit par ouvrir les yeux.
« Viens dans ma cabine que je te suture la tête, garçon, et arrête de pleurnicher, » ordonna-t-il. « Je n'ai pas envie que tu restes couché une semaine sans pouvoir travailler à cause de la fièvre. Allons, dépêche, j'ai pas toute la nuit. »
Pour cacher son anxiété, il s'efforça de prendre l'air mécontent tandis qu'il précédait Althea hors de la cale. Malgré la faible clarté dispensée par la bougie, il avait vu la pâleur de son visage et ses cheveux encroutés de sang. Comme elle entrait derrière lui dans sa petite cabine, il dit d'un ton hargneux
« Repousse la porte, je ne tiens pas à ce que la tempête s'installe chez moi !»
Elle obéit avec une docilité pesante. À l'instant où elle fermait le battant, il se précipita pour le verrouiller, puis il se retourna, saisit Althea par les épaules et, résistant à l'envie de la secouer comme un prunier, il la contraignit à s'asseoir sur sa couchette.
« Vous êtes folle ou quoi ? »
demanda-t-il en accrochant son manteau à la patère.
« Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu que vous étiez blessée ?»
Il savait parfaitement qu'elle le lui avait dit, et s'attendait à ce qu'elle le souligne, mais elle porta seulement la main à son crâne et répondit d'un ton incertain
« J'étais si fatiguée !»
En maudissant l'exiguïté de sa cabine, il enjamba les pieds d'Althea pour atteindre son coffre de soins. Il l'ouvrit, y choisit quelques articles et les déposa sur la couchette près de la jeune fille. Il rapprocha la lanterne, mais la lueur resta encore trop faible pour y voir distinctement. Althea fit une grimace quand il lui palpa le crâne en essayant d'écarter ses cheveux épais et de trouver l'origine de l'hémorragie. Il avait les doigts poisseux. La blessure n'était pas refermée. Bah, les plaies au cuir chevelu saignaient toujours abondamment, il le savait bien. Il n'aurait pas dû s'en inquiéter, mais il ne pouvait s'en empêcher. surtout en voyant le regard vague d'Althea.
« Je vais devoir vous couper des cheveux, »
dit-il en s'attendant à de vigoureuses protestations.
« S'il le faut... »
Il l'observa de plus près. « Combien de coups avez-vous reçus ?»«
2, je crois. »
« Dites-moi davantage. Racontez-moi tout ce que vous vous rappelez de cette soirée. »
Et elle se mit à parler en phrases décousues, tandis qu'à l'aide de ciseaux, il lui coupait les cheveux ras autour de la blessure. En écoutant l'histoire qu'elle lui narra, il ne se félicita pas de sa présence d'esprit. Ajoutez à ceux qu'il connaissait, les détails apportés par Althea indiquaient sans erreur possible que la jeune fille et lui avaient été pris pour cible afin de compléter l'équipage de la joyeuse. C'était pure chance s'il n'était pas actuellement enchaîné dans sa cale. L'entaille qu'il mit à nu était longue comme son petit doigt, et le poids de la queue de cheval la faisait bâiller. Même après qu'il l'eut dégagée et eut coupé les mèches encroûtées qui l'entouraient, du sang continua d'en sourdre. Il prit un chiffon pour l'éponger.
« Je vais devoir suturer la plaie, »
déclara-t-il en s'efforçant de chasser à la fois les brumes de la drogue et la nausée qui le prenait à l'idée de planter une aiguille dans le cuir chevelu d'Althea. Heureusement, la jeune fille paraissait encore plus hébétée que lui. Il ignorait ce que les enrôleurs avaient mis dans sa bière, mais c'était efficace. À la lueur vacillante de la lanterne, il fit passer un mince filament de boyau par le chat d'une aiguille courbe. L'instrument paraissait minuscule et glissant entre ses doigts. Allons, ce ne devait pas être très différent de ravauder des vêtements ou de réparer une voile. Il effectuait ce genre de travaux depuis des années.
« Ne bougez pas, »
dit-il à la jeune fille, bien que ce ne fût guère nécessaire. Prudemment, il appuya la pointe de l'aiguille sur sa peau. Il allait devoir la pousser à l'oblique pour qu'elle ressorte un peu plus loin. Il exerça une légère pression sur l'ustensile, mais au lieu de percer la peau, il fit glisser le cuir chevelu sur le crâne. L'aiguille n'arrivait pas à s'enfoncer. Il appuya un peu plus fort.
« Aïe !»
s'écria la jeune fille, et elle lui écarta brusquement la main.
« Mais qu'est-ce que vous fabriquez ? »
demanda-t-elle d'un ton furieux en le regardant d'un air mauvais.
« Je vous l'ai dit, je dois recoudre votre blessure. »«
Hein ?»
Un silence.
« Je n'écoutais pas. »
Elle se frotta les yeux, puis leva la main pour se palper le crâne à gestes précautionneux.
« Si vous y êtes obligé, »
fit-elle d'un ton lugubre. Elle ferma les yeux, puis les rouvrit.
« Je voudrais bien m'évanouir ou me réveiller complètement, mais je n'y arrive pas. J'ai seulement les idées confuses. J'ai horreur de ça. »
« Je vais jeter un coup d'œil là-dedans, »
répondit Brashen en s'agenouillant pour fouiller dans le coffre aux médicaments.
« Il y a des années qu'on n'a pas refait cette réserve, »
grommela-t-il tandis qu'Althea regardait par-dessus son épaule.
« La moitié des flacons sont vides. Les herbes qui devraient être vertes ou brunes sont grisâtres et certains produits sentent le moisi. »«
C'est peut-être leur odeur normale ?»
fit Althea.
« Peut-être, j'en sais rien, »
marmonna-t-il.
« Laissez-moi voir. » C'est moi qui me chargeais de racheter les médicaments de la vivacia quand nous rentrions au port. »
Et elle s'appuya sur Brashen pour se rapprocher du petit coffre coincé entre la cloison et la couchette. Elle examina quelques flacons à la lueur de la lampe, puis les mit de côté. Elle ouvrit un petit pot, plissa le nez d'un air de dégoût en humant l'odeur forte qui s'en dégageait et le referma.
« Il n'y a rien d'utile là-dedans. »
dit-elle finalement en se rasseyant.
« Je tiendrai les lèvres de la plaie fermée pendant que vous la recoudrez et j'essaierai de ne pas bouger. »
« Une seconde, »
répondit Brashen à contre-cœur. Il avait gardé un bout de la chique de Saint-Dine. Ce n'était pas un gros morceau, juste de quoi se remonter le moral à l'avance pendant une journée pénible. Il le sortit de la poche de son manteau et le débarrassa de la peluche qui s'y était collée. Il le montra à la jeune fille, puis le rompit en deux.
« De la sindine. Ça devrait vous réveiller et vous remettre un peu d'aplomb. On fait comme ça. »
Il plaça la chique dans sa bouche et, du bout de la langue, l'enfonça contre sa lèvre inférieure. Il sentit l'âcreté familière envahir ses papilles.
« Sans ce goût, se dit-il lugubre, il aurait peut-être décelé la drogue introduite dans sa bière. » Mais il écarta ce vain regret et déplaça la chique qui s'était appliquée sur une de ses précédentes brûlures. Il prévint Althea.
« C'est très amer au début, à cause de l'armoise, mais ça donne un sacré coup de fouet. »
L'air dubitatif, Althea fourra la chique entre sa gencive et sa lèvre inférieure. Elle fit une grimace, puis attendit l'effet de la drogue sans quitter Brachen des yeux. Au bout d'un moment, elle demanda
« C'est normal que ça brûle ?»«
C'est de la forte, » répondit Brachen.
« Déplacez-la souvent, ne la laissez pas trop longtemps au même endroit. » Il observa que les traits d'Althea se détendaient lentement, et il sentit un sourire étirer ses propres lèvres.
« C'est bon, non ?»
Elle eut un petit rire.
« Et rapide aussi. »«
Ça part vite et ça s'arrête vite. » Personnellement, je n'y ai jamais vu de mal, du moment que l'effet avait cessé quand on prenait son quart.
Althea déplaça maladroitement la chique dans sa bouche.
Mon père disait que les hommes s'y adonnaient alors qu'ils auraient dû dormir, et qu'ils arrivaient pour leur quart déjà fatigués. Et s'ils étaient encore sous l'influence de la drogue en se mettant au travail, ils avaient trop confiance en eux et prenaient des risques inutiles.
Elle se tut un instant. « Les téméraires mettent la vie des autres en danger, » répétait-il toujours.
« Oui, je m'en souviens, » acquiesça gravement Brachen. « Je n'ai jamais consommé de sindine à bord de la Vivacia, Althea. J'avais trop de respect pour votre père. »
Le silence régna quelque temps entre eux, puis la jeune fille soupira.
« Allons-y, » dit-elle.
« D'accord. » Il reprit l'aiguille et Althea suivit son geste des yeux. Peut-être la Sindine l'avait-elle un peu trop réveillée.
« On n'a pas la place de travailler ici, » fit-il d'un ton agacé. « Tenez, allongez-vous sur la couchette, la tête tournée. Ouais, comme ça. »
Il s'accroupit près d'elle. Ouais, c'était mieux ainsi. Il arrivait presque à voir ce qu'il faisait. À l'aide de son chiffon, il épongea le sang qui coulait lentement de la plaie. Puis il arracha quelques cheveux qui restaient dans la zone où il devait opérer.
« À présent, maintenez l'entaille fermée. Non, là, vos doigts me gênent. Là, comme ceci. »
Il lui déplaça les mains, et ce ne fut pas un accident si elle se retrouva les yeux cachés par un de ses poignets.
« Je vais tâcher de faire vite. »
« Tâchez plutôt de travailler soigneusement. » répliqua-t-elle. « Ne cousez pas trop serré. Rapprochez les lèvres autant que vous le pourrez sans que la suture forme un bourrelet. »
« J'essaierai. Je n'ai jamais pratiqué ce genre d'opération, vous savez, mais j'y ai assisté plus d'une fois. »
Il la vit déplacer sa chique, ce qui lui rappela d'en faire autant. Il fit la grimace quand le morceau de sindine passa sur une brûlure qu'il s'était faite plus tôt dans la soirée. Puis il observa qu'Althea serrait les dents et il se mit à l'œuvre. S'efforçant de ne pas songer à la douleur qu'il infligeait et de ne penser qu'à faire du bon ouvrage, il réussit à transpercer le cuir chevelu. Il dut maintenir fermement la peau en place pendant qu'il tirait la pointe de l'aiguille incurvée jusqu'à l'autre bord de l'entaille. Le pire fut de tirer le fil à travers la peau. Il émit un petit bruit de tissu déchiré qui faillit faire perdre son sang-froid à Brachen. À chaque point, Althea serra les dents et fut prise d'un frisson convulsif, mais elle ne cria pas une fois.
Quand il eut fini, il fit un dernier nœud et coupa le fil en surplus.
« Et voilà, »
fit-il en posant son aiguille. « Enlevez vos mains que je vois comment je m'en suis tiré. » Les bras de la jeune fille retombèrent sur la couchette. Son visage était emperlé de sueur. Brachen examina la suture d'un œil critique.
Ce n'était pas du très joli travail, mais la blessure resterait fermée.
Althea le regardait et il lui manifesta sa satisfaction d'un hochement de tête.
« Merci, » murmura-t-elle.
« Non, c'est moi qui vous remercie. »
Il avait enfin trouvé l'occasion.
« J'ai une dette envers vous. Sans vous, je serais en ce moment à bord de la Joyeuse à fond de cale. »
Il se pencha et déposa un baiser sur la joue de la jeune fille. Alors, elle leva les bras, lui enserra le cou et tourna ses lèvres vers les siennes. Il perdit l'équilibre et se rattrapa tant bien que mal au cadre de la couchette en réussissant à ne pas interrompre le baiser. La bouche d'Althea avait le goût de la sindine qu'il partageait. Elle lui prit doucement la nuque, et ce contact fut aussi vivifiant que celui de ses lèvres. Il y avait si longtemps que personne ne l'avait touchée avec tendresse. Elle détourna enfin le visage. Il se redressa. « Bon, » fit-il d'un ton embarrassé, « eh bien, je vais vous mettre un pansement. »
Elle hocha lentement la tête.
Il prit une bande de toile et se pencha de nouveau vers elle.
« C'est la sindine, vous savez, » dit-il brusquement.
Elle déplaça la chique dans sa bouche.
« Sans doute, et si c'est vrai, ça m'est égal. »
Malgré l'étroitesse de la couchette, elle parvint quand même à se décaler pour y faire de la place. Elle posa sur le flanc de Brachen une main qui lui parut irradiée de la chaleur. Il sentit sa peau se couvrir de chair de poule. Pressante, la main l'invitait. Il émit comme un petit gémissement et fit un dernier effort. « Il ne vaudrait mieux pas. C'est risqué. »
« Comme tout en ce bas monde, »
répondit-elle presque avec tristesse. Il essaya maladroitement de défaire le lassage de la chemise d'Althea, et après qu'elle s'en fût débarrassée à force de mouvements d'épaule, il restait encore la barrière de la bande qui lui aplatissait la poitrine. Il la déroula, libérant ses petits seins qu'il embrassa, qu'elle était maigre. Et sa peau avait un goût d'eau salée, d'étoupe et même d'huile animale. Mais elle était tiède, consentante et femme. Il se serra contre elle sur la couchette trop étroite et trop courte. Il essaya de se répéter que c'était sans doute la sindine qui donnait à ses yeux l'aspect d'abîme sans fond. Curieux qu'une jeune fille à la langue aussi acérée possède des lèvres aussi douces. Même quand elle planta ses dents dans son épaule pour étouffer ses cris inarticulés, la douleur fut exquise. « Althea, » murmura-t-il, la bouche dans ses cheveux. Entre la seconde et la troisième fois. Althea Vestrit. Il ne désignait pas ainsi seulement la jeune fille, mais aussi tout le royaume de sensations qu'elle avait éveillé en lui.
Brach, Brachentrell.
Une petite part d'elle-même n'arrivait pas à se convaincre de ce qu'elle était en train de faire avec lui.
Non, pas ça.
Un observateur ridicule et ironique la regardait incrédule, se laissait aller à toutes les envies de son corps.
Elle n'aurait pu choisir pire partenaire pour cela.
Et puis elle se dit « Trop tard pour les regrets ?» Et elle l'attira plus profondément en elle, tandis qu'elle s'arc-boutait contre lui. C'était bizarre, mais elle était incapable de déterminer quelle part d'elle-même tendait à critiquer ses actes. En dehors de la première fois, elle avait toujours eu le bon sens de maintenir ce genre d'affaires à un niveau impersonnel. Or, voici que non seulement elle cédait à ses propres impulsions et à celles de Brachen avec un abandon qui la laissait pantois, mais encore qu'elle y cédait avec un homme qu'elle connaissait depuis des années, et pas qu'une seule fois, au surplus. Il s'était à peine écroulé sur elle la première fois qu'elle le pressait de recommencer.
elle était comme affamée soudain en présence d'un festin. Une grande chaleur brûlait en elle, peut-être due à la sindine. Mais elle éprouvait brusquement un besoin, tout aussi grand et qu'elle reconnaissait enfin, de contact étroit avec un humain, un besoin de toucher, de partager, de retenir. À un moment, elle sentit des larmes lui piquer les yeux et un sanglot lui échappa. Elle l'étouffa contre l'épaule de Braschen, presque effrayée par la démesure de la solitude et des peurs que cet accouplement semblait effacer. Elle s'était montrée forte trop longtemps. Elle ne supportait pas d'étaler sa faiblesse devant quiconque, et surtout pas devant quelqu'un qui la connaissait. Elle s'agrippa farouchement à lui et lui laissa croire que sa réaction provenait de son ardeur. Elle n'avait pas envie de penser. Pas maintenant. Pour l'instant, elle voulait seulement profiter de ce qui s'offrait à elle, égoïstement. Elle caressa les muscles durs des bras et du dos de Braschen. Au niveau de son sternum se trouvait une zone couverte de poils épais et bouclés. Partout ailleurs, sur sa poitrine et son ventre, ce n'était qu'un chaume noir, abrasé par le tissu rêche de ses vêtements et le mouvement constant du navire. Il ne cessait de l'embrasser, comme s'il ne pouvait se rassasier d'elle. Sa bouche avait goût de sindine, et quand il posait ses lèvres sur ses mamelons, elle en sentait la piqûre brûlante. Elle glissa la main entre leurs deux corps et toucha doucement sa raideur mouillée alors qu'il allait et venait en elle. Un instant plus tard, elle lui appliqua brutalement la même main sur la bouche pour étouffer son cri, tandis qu'il se poussait en elle et les faisait vaciller ensemble au bord de l'éternité. Pendant quelque temps, son esprit resta vide. Et puis, revenant d'elle ne savait où, elle se retrouva brutalement sur l'étroite couchette trempée de sueur, écrasée par la masse de Braschen, les cheveux coincés sous sa main aux doigts écartés. Elle se rendit compte qu'elle avait froid aux pieds et qu'elle avait une crampe dans le bas du dos. Elle se souleva sous lui.
« Laissez-moi me redresser, »
fit-elle à mi-voix. Puis, comme il ne réagissait pas, elle reprit.
« Braschen, vous m'empêchez de respirer, écartez-vous. »
Il obéit enfin et elle parvint à s'asseoir tant bien que mal. Il replia les jambes de façon qu'elle se trouve au creux de son corps et leva les yeux vers elle sans tout à fait lui sourire. Du bout du doigt, il traça un cercle autour d'un de ses seins. Un frisson la parcourut. Avec une tendresse qui l'horrifia, il tira la seule couverture de la couchette pour lui en couvrir les épaules. « Althea ?» fit-il. Elle l'interrompit d'un ton suppliant.
« Ne parlez pas, ne dites rien. »
Elle ignorait pourquoi et comment, mais s'il évoquait ce qu'il venait de faire, cela gagnerait en substance et deviendrait une partie de son existence qu'elle ne pourrait nier plus tard. À présent qu'elle était rassasiée, sa prudence lui revenait.
« Ça ne doit pas se reproduire, » dit-elle brusquement.
« Je sais, je sais. » Néanmoins, ses yeux ne quittaient pas ses doigts qui descendaient lentement le long de la gorge d'Althea jusqu'à son ventre. Il tapota la bague amulette fixée à son nombril.
« C'est inhabituel comme bijou. »
À la douce lueur vacillante de la lanterne, la petite tête de mort parut leur faire un clin d'œil.
« C'est un cadeau de ma sœur chérie, »
dit Althea d'un ton aigre.
« Je... »
Il hésita.
« Je croyais que c'était réservé aux prostituées, » fit-il embarrassé.
« C'était aussi l'opinion de ma sœur, »
répondit Althea, glaciale. Sans prévenir, la vieille blessure se rouvrit en elle. Elle se roula en boule à côté de Braschen, qui l'enserra dans la courbe de son corps. Sa chaleur était agréable, aussi agréable que le chatouillis léger de son doigt sur son sein. Elle aurait dû repousser sa main, elle le savait. L'affaire devait en rester là. Le plus sage serait qu'elle se lève, s'habille et regagne les quartiers de l'équipage.
qu'elle se lève dans la cabine glacée et renfile ses vêtements froids et humides. Avec un frisson d'horreur, elle se mussa contre la chaleur de Brashen. Il se déplaça un peu pour passer les deux bras autour de son corps et la serrer contre lui, bien en sécurité.
« Pourquoi vous offrir une amulette en bois sorcier ?»
Elle sentit la répugnance que lui inspirait sa propre curiosité.
« Pour que je ne tombe pas enceinte, et que je ne jette pas la honte sur ma famille, ou bien que je n'attrape pas une maladie qui me laisserait défigurer et me dénoncerait devant tout Terrilville comme la catin que je suis ?»
Elle avait choisi exprès des mots durs pour se les lancer elle-même à la figure. Brashen resta un instant figé, puis sa main descendit doucement le long du dos d'Althea. Il la caressa, puis lui massa doucement les épaules et la nuque, jusqu'à ce qu'avec un soupir elle se détende et se laisse aller contre lui.
« C'était de ma faute, » reprit-elle sans l'avoir voulu. « Je n'aurais jamais dû lui en parler. Mais... je n'avais que 14 ans et j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je l'annonce à quelqu'un. Je ne pouvais rien dire à mon père puisqu'il venait de débarquer d'Evon.
D'Evon ? Brashen répéta le nom en lui donnant une intonation presque interrogatrice. Althea soupira.
C'était avant votre arrivée. D'Evon était matelot à bord. Il était très beau et... il avait toujours le sourire ou la plaisanterie aux lèvres, même quand tout allait mal. Il n'avait peur de rien. Il était prêt à courir n'importe quel risque.
Sa voix mourut et, pendant un instant, Althea ne pensa qu'à la main de Brashen qui se déplaçait doucement sur son dos, dénouant ses muscles comme s'il démêlait un cordage.
C'est là que nous étions d'opinions divergentes, mon père et moi, naturellement.
« Ce serait le meilleur élément du navire s'il avait un peu de bon sens, » m'avait-il dit un jour. « Et il ferait un bon second s'il savait seulement quand il faut avoir peur. »
Mais ce n'était pas dans la nature de D'Evon. À l'écouter, on pouvait mettre toujours plus de voiles, et quand il travaillait dans le gréement, il se montrait toujours le plus rapide. Je comprenais ce que mon père voulait dire. Quand, par orgueil, les autres essayaient de soutenir son allure, ils abattaient l'ouvrage plus vite mais moins soigneusement. Il commettait des erreurs et certains se blessaient. Ce n'était jamais rien de grave, mais vous connaissiez mon père. Il répétait que les accidents et les morts sont néfastes à une vive nef parce que les émotions suscitées sont trop fortes.
Je pense qu'il avait raison, fit Brashen à mi-voix. Il déposa un baiser sur sa nuque.
Je le sais bien, répondit Althea vaguement agacée.
Elle poussa un brusque soupir.
« Mais j'avais 14 ans, et D'Evon était beau comme un dieu, avec ses yeux gris. » Après son quart, il s'asseyait sur le pont et me taillait de petits objets en bois, en me racontant des anecdotes de ses voyages. J'avais l'impression qu'il avait été partout, qu'il avait tout fait. Il ne critiquait jamais vraiment papa, ni devant moi, ni devant le reste de l'équipage, mais son petit sourire dédaigneux au coin des lèvres, quand il pensait que nous naviguions trop prudemment, le disait sans équivoque. Parfois, cette expression mettait mon père en fureur, mais j'ose à peine l'avouer, je la trouvais adorable. Je n'y voyais qu'audace et mépris du danger.
Elle soupira de nouveau.
Je le croyais incapable de faire le moindre mal. Eh oui, j'étais amoureuse.
Et il en a profité alors que vous n'aviez que 14 ans ? Fit Brashen d'un ton réprobateur.
« Sur le navire de votre père ?
Ce n'est plus de l'audace, c'est de la stupidité. »
« Non, ça ne s'est pas passé ainsi. »
Althea parlait à contre-cœur. Elle n'avait aucune envie de raconter cet épisode de sa vie à Brashen, mais elle ignorait pourquoi elle était incapable de s'arrêter.
« Je crois qu'il sentait la passion que je lui portais, et il me faisait parfois la cour, mais en manière de plaisanterie. » J'adorais ce qu'il me disait alors, tout en sachant qu'il n'en pensait pas un mot.
Elle secoua la tête.
Mais, un soir, l'occasion s'est présentée. Nous étions au port de Lee. La nuit était calme. Mon père s'était rendu en ville pour affaires et
La plupart de l'équipage était en permission de sortie. C'est moi qui tenais le quart. J'ai été descendu à terre un peu plus tôt dans la journée et je m'étais acheté, voyons, des boucles d'oreilles, du parfum, un corsage et une longue jupe de soie. Je m'étais paré de tous mes achats pour attirer le regard de Devon quand il rentrerait de sa tournée des tavernes. Et quand je l'ai vu revenir avant tout le monde, seul, mon cœur s'est mis à battre si fort que j'en avais du mal à respirer. J'ai compris que je tenais ma chance. Il est monté à bord d'un bond, selon son habitude. Il s'est reçu comme un chat sur le pont et il s'est dressé devant moi. Elle eut un petit rire de dérision. « Vous connaissez la chanson ? Nous avons dû parler, il a dû dire quelque chose et j'ai dû répondre. Mais je n'en ai aucun souvenir. Sinon celui du bonheur que je ressentais à pouvoir enfin lui avouer mon amour, à pouvoir m'exprimer sans contrainte, car nul ne pouvait nous entendre. Et lui ? Il souriait jusqu'aux oreilles, comme s'il n'arrivait pas à croire en sa bonne fortune. Et puis, il m'a saisi par le bras et il m'a entraîné jusque devant un panneau de cale. Là, il m'a fait me pencher en avant. Il a relevé mes jupes, baissé ma culotte et il m'a prise là, comme ça, penché sur un panneau de cale comme un garçon.
« Il vous a violé ?»
Brachon était pâle comme la mort. Althea ravala un éclat de rire nerveux. « Non, non, ce n'était pas un viol. Il ne m'a pas forcé. Je n'y connaissais rien, mais j'étais sûre d'être amoureuse. C'est de mon plein gré que je l'ai suivi et que je me suis prêtée à ses envies. Il n'a pas été brutal, mais il m'a tout fait. Tout. Et moi, comme j'ignorais à quoi m'attendre, je ne crois pas avoir été déçue. Après, il m'a regardé avec son adorable sourire et il m'a dit
« J'espère que tu te souviendras de ce soir toute ta vie, Althea. Moi, je ne l'oublierai pas, je te le promets. »
Elle prit une profonde inspiration. Ensuite, il est descendu au quartier de l'équipage, il en est ressorti avec son sac de marin et il a quitté le navire. Je ne l'ai jamais revu. Elle se tut un long moment. J'ai guetté son retour, je l'ai attendu jusqu'à ce que nous appareillions 2 jours plus tard et que j'apprenne alors que papa lui avait donné son congé à l'instant où nous nous étions amarrés.
Brachon émit un gémissement sourd. « Oh non !» Il secoua la tête. « Il s'était vengé de votre père en vous possédant. »
Avec lenteur, Althea répondit. Je n'ai jamais considéré l'affaire sous cet angle. Pour moi, c'était un défi qu'il s'était lancé, celui de ne pas se faire attraper. Elle dut faire un effort pour demander. Vous croyez vraiment qu'il cherchait à se venger?
Ça m'en a tout l'air. C'est une histoire affreuse qui vous est arrivée, ajouta-t-il à mi-voix. « Devon, si jamais je le rencontre, je le tuerai. »
La sincérité qu'il mit dans cette promesse effraya la jeune fille. « Le plus affreux, c'est ce qui s'est passé ensuite, » dit-elle. « Nous sommes arrivés à Terrilville quelques semaines plus tard, et j'étais sûre d'être enceinte. J'en étais absolument certaine. Je n'osais pas parler à mon père, et m'adresser à maman n'était guère plus imaginable. » Je suis donc allée trouver ma sœur mariée, Kefria, convaincue qu'elle pourrait me donner un conseil, et je lui ai fait jurer de garder le secret, puis je lui ai tout raconté.
Althea secoua la tête et déplaça de nouveau la sardine dans sa bouche.
La chique avait laissé une brûlure et n'avait presque plus de goût.
« Eh bien, Kefria, » fit Brachon, il donnait l'impression de vouloir vraiment connaître la fin de l'histoire.
Elle s'est montrée horrifiée. Elle s'est mise à pleurer et elle m'a déclaré que je n'avais plus d'avenir, que j'étais une prostituée et une traînée, que j'avais jeté l'opprobre sur la famille. Puis, elle a refusé de me parler. 4 ou 5 jours plus tard, mes règles sont arrivées comme d'habitude. Alors j'ai pris ma sœur à part,
Je lui ai annoncé la nouvelle, et je l'ai averti que si elle touchait un seul mot de cette affaire à papa ou maman, je l'accuserais de mensonge. J'étais terrifiée, vous comprenez? Après tout ce qu'elle m'avait dit, j'étais persuadée qu'ils me retireraient leur affection et me jetteraient à la rue.
Mais n'avait-elle pas promis de se taire?
Je ne me fiais pas à sa parole. J'avais déjà la quasi-certitude qu'elle avait tout raconté à son mari, à en juger par le changement d'attitude de Kyle envers moi. Mais elle n'a pas protesté, elle n'a pas hurlé, elle n'a même presque rien dit en me remettant l'anneau ombilical. Elle a simplement déclaré que tant que je le porterais, je ne tomberais pas enceinte, je n'attraperais pas de maladie, et que c'était bien le moins que je pouvais faire pour ma famille.
Althea se gratta la nuque, puis fit la grimace.
Les relations n'ont plus jamais été les mêmes entre nous. Nous avons appris à nous montrer polis l'une avec l'autre, principalement pour empêcher nos parents de poser des questions gênantes. Mais je crois que j'ai vécu le pire été de ma vie. J'ai l'impression d'avoir été trahi par tout le monde.
Et, à la suite de ça, je suppose que vous avez fait ce que vous vouliez avec les hommes.
Elle aurait dû se douter qu'il poserait cette question. Les mâles voulaient toujours savoir ce genre de détails. Elle haussa les épaules, résignée à révéler toute la vérité. De temps en temps, mais pas souvent. Deux fois, à vrai dire. J'avais l'impression que cette première expérience n'avait pas été menée convenablement. À entendre parler les marins de la Vivacia, il me semblait que ça aurait dû être au moins vaguement amusant, alors que je n'en gardais qu'un souvenir de d'écartèlement, d'un peu de douleur et d'humidité, rien d'autre. Alors j'ai fini par prendre mon courage à deux mains et j'ai essayé deux autres fois, avec des hommes différents. Et c'était bien.
Brachen leva le visage pour la regarder dans les yeux. Ce qui s'est passé entre nous, vous qualifiez ça seulement de bien? Encore une vérité qu'elle n'aurait pas voulu dévoiler. Elle avait l'impression de perdre une arme.
Non, ce n'était pas seulement bien. C'est ainsi que ça devrait toujours se passer. Jamais je n'avais connu ça.
Et puis, incapable de supporter l'expression attendrie des yeux de Brachen, elle ne put s'empêcher d'ajouter
« C'est peut-être la Sindine ?»
Entre le pouce et l'index, elle prit la petite chique dans sa bouche.
« J'ai l'intérieur de la lèvre plein de brûlures, »
se plaignit-elle en détournant le regard de l'expression peinée de Brachen.
« Oui, c'est sans doute la Sindine, » fit-il.
« J'ai entendu dire qu'elle avait parfois cet effet-là sur les femmes. Rares sont celles qui en prennent, vous savez, parce que ça peut les faire saigner, même quand ce n'est pas le moment. » Il eut l'air soudain gêné.
« Et c'est maintenant qu'il me le dit ?»
marmonna-t-elle. Les bras de l'homme s'étaient desserrés autour d'elle. L'influence de la drogue s'atténuait. Althea se sentait soudain épuisée, et sa plaie à la tête l'élançait douloureusement. Elle devait se lever. La cabine glacée, les vêtements humides. Encore une minute, et il lui faudrait se lever pour retourner à la solitude.
Je dois m'en aller. Si on nous surprend comme ça...
Je sais, dit-il. Mais son seul mouvement fut de parcourir son corps en une longue caresse qui éveilla un frisson dans son sillage.
Brachen, vous savez que ça ne doit pas se reproduire.
Je sais, souffla-t-il, la bouche contre sa peau. Il déposa doucement un baiser sur sa nuque. Ça ne se reproduira plus jamais. Plus jamais après cette dernière fois.